19h18 à l'écoute du Grand Journal d'Europe 1 et à l'aube d'un confinement qui paraît probable pour certains, je reçois la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Bonsoir Nathalie Elimas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1, peut-être pour dissiper une angoisse éventuelle de la part des parents. Si confinement il y a, on va être des si, y aura-t-il fermeture des écoles ou non ?
Alors si confinement il y a, en tout cas si durcissement des mesures il y a, notre objectif, partagé avec Jean-Michel Blanquer, évidemment, c'est de maintenir les écoles ouvertes. Parce qu'à l'éducation nationale, on a une conviction forte, c'est que l'école, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour leur éducation, c'est bon pour leur développement, c'est bon aussi pour leur socialisation. Et puis on voit bien surtout les impacts que la fermeture des écoles pourrait avoir pour l'éducation, je viens de le dire, mais également pour la vie économique, ce serait particulièrement difficile. Donc l'objectif est vraiment, nous faisons tout en ce sens pour que les écoles restent ouvertes.
Et à ce jour, la situation sanitaire permet cette continuité scolaire, comme vous dites. À force de vouloir préserver l'économie, disent certains parents inquiets, est-ce qu'on protège suffisamment nos enfants? C'est une question qu'on peut se poser. On sait que le confinement stricto sensu, un scientifique nous le disait, c'est rester tous à la maison comme au mois de mars. Donc, que répondre à cette inquiétude ?
Alors oui, nous faisons tout pour protéger nos enfants. D'ailleurs, c'est de notre responsabilité de protéger nos élèves et nos personnels. Je rappelle que nous mettons à disposition un certain nombre de tests, 300 000 tests à disposition de l'ensemble de nos établissements par semaine, justement pour casser le plus tôt possible les chaînes de contamination. Et puis, il y a tous ces protocoles sanitaires que nous avons mis en place dès le mois de juillet l'année dernière, qui sont évolutifs, en fonction de l'évolution sanitaire, bien évidemment, dans le pays. Je vous rappelle qu'à la rentrée de septembre, tous les enfants étaient à l'école.
Oui.
Dès lors qu'il y a eu ces couvre-feux et ce confinement au mois de novembre, nous avons adapté le protocole, notamment par l'hybridation des lycées. Nous sommes également en train de regarder comment adapter les protocoles dans les cantines scolaires. Donc tout est en place et nous sommes extrêmement attentifs à ce que tout fonctionne au mieux pour assurer vraiment la protection de nos élèves.
Ça veut dire que ça a commencé à changer dans les cantines scolaires, qui sont un sujet de préoccupation majeure pour les parents qui voient ensuite leurs grands rentrer à la maison à avoir côtoyé une cantine bondée?
Alors, les protocoles vont varier en effet à partir de lundi, là demain, lundi 25, mais finalement ce sera à la marge parce que les établissements scolaires s'étaient déjà adaptés pour faire déjeuner les élèves par cohorte,
d'accord,
c'est-à-dire un groupe classe, toujours à la même heure, au même endroit, aux mêmes tables. Donc ça, c'était déjà en place et pour les établissements qui ne le faisaient pas, eh bien, on a laissé une petite semaine pour travailler avec les collectivités territoriales et pour le territorial, pardon, et puis pour le mettre en place. Et enfin, c'est quand même beaucoup plus simple aussi dans les lycées qui sont en hybridation, puisqu'on est à demi-jauge. Et donc, ça permet de répondre à cette question plus précisément.
Nathalie Elimas, vous travaillez étroitement au contact de Jean-Michel Blanquer et vous êtes secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Ça, c'est le jargon. Toute éducation est prioritaire, mais vous, vous activez justement un certain nombre de dispositifs en région et on va y venir. Simplement, est-ce que la pandémie se ressent sur l'implication des élèves et dans les résultats éventuels? Est-ce que vous avez des remontées, notamment dans ces zones d'éducation prioritaire plus complexes?
Alors, nous avons des remontées très précises puisque nous avons des évaluations nationales. Nous évaluons nos élèves de CP, de CE1 et de 6e. Donc, chaque année, nous avons des remontées. Cette année, évidemment, en sortie de confinement, ça a été un petit peu particulier. Il y a en effet un écart qui s'est creusé entre nos élèves d'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire parce qu'il y a parfois des difficultés sociales. Il y a eu une rupture numérique, une fracture numérique beaucoup plus forte dans certaines familles. Et donc, il y a eu des difficultés, en tout cas au début, à mettre en place le plan de continuité pédagogique. Donc oui, il y a eu des difficultés. Néanmoins, les résultats ne sont pas si alarmants que cela. J'en veux pour preuve les résultats des évaluations de nos élèves de 6e, qui globalement sont plutôt bons parce que dès l'été, nous avons mis en place le dispositif de vacances apprenantes et notamment les stages de réussite, où nous avons vu revenir sur la base du volontariat bon nombre de nos élèves. 70 000 élèves étaient inscrits au stage de réussite en 2019, 250 000 en 2020, c'est dire qu'ils sont venus massivement, qui ont bénéficié de ces coups de pouce et ce qui a permis finalement de réussir plutôt pas mal ces évaluations de 6e.
Et votre mission, Nathalie Elimas, entre autres, c'est de développer ces dispositifs justement pour maintenir un lien, un enseignement capital. J'en veux pour preuve ce que vous allez faire, ce que vous avez lancé dans l'Académie de Normandie, c'est le programme éducatif rural pour faciliter la réussite et l'intégration professionnelle des élèves loin des villes. Surtout en ce moment, il est utile ce programme?
Alors, ce sont les territoires éducatifs ruraux, les TER. En effet, nous avons une ambition forte en matière sociale et en matière de lutte contre les inégalités, donc sociale et territoriale. L'école rurale est plutôt de bon niveau, toutefois en raison de particularités liées au territoire, notamment d'éloignement géographique. On a parfois chez nos élèves un peu d'autocensure ou un petit manque d'ambition scolaire. Et ce programme, les territoires éducatifs ruraux lancés sur 3 académies, vous avez cité l'Académie de Normandie, il y a également Amiens et Nancy-Metz, vise à la fois à revitaliser ces territoires ruraux, à revitaliser aussi l'école rurale et à mieux actionner nos politiques publiques déjà mises en place sur l'ensemble de ces territoires pour favoriser l'ambition scolaire de nos élèves.
On va parler d'un autre dispositif que vous déployez, Devoir fait à distance. Oui. Alors, il existe depuis quelques mois maintenant. Quoi consiste-t-il, ce dispositif ?
Alors, Devoir fait existe depuis 3 ans déjà. Donc, c'est une aide au devoir qui est en place dans les collèges. Mais je me suis rendu compte, en faisant tous les déplacements que je fais, et j'essaie justement d'aller sur les territoires, et en particulier en ruralité, que certains de nos élèves sur ces territoires ne pouvaient pas en bénéficier, parce qu'ils dépendent, encore une fois, question de mobilité, d'un car scolaire pour rentrer à la maison. Et donc ne peuvent pas bénéficier de cette aide, qui est une aide pédagogique, qui les aide sur le plan de leur autonomie et qui est également une mesure de justice sociale forte, puisque, rappelons-le, c'est totalement gratuit. Donc nous l'avons développé, nous l'avons transformé en e-devoir fait ou devoir fait à distance. L'élève peut rentrer à son domicile. Et il peut, via son ordinateur, sa tablette ou même son téléphone portable, être en connexion avec son professeur qui peut l'aider à faire ses devoirs, à débloquer une consigne sur un exercice de maths, par exemple.
La fracture numérique, elle existe très clairement aussi dans ces zones d'éducation prioritaire, car on a vu combien les outils numériques étaient essentiels dans ces périodes confinées, déconfinées, Nathalie Elimas.
Bien sûr, elle nous est apparue très fortement à l'occasion du confinement de mars-avril dernier, c'est vrai. Et nous avons justement actionné beaucoup de leviers pour résoudre cette question liée à la fracture numérique et notamment à l'absence d'équipement dans les familles. Donc nous déployons nous-mêmes un dispositif territoire numérique éducatif pour doter nos élèves qui n'ont pas encore le matériel. Je veux souligner aussi que les collectivités ont joué le jeu. Les départements ont doté les collèges, certaines régions ont équipé également les lycées. Il y a également des acteurs du monde économique qui sont venus. Donc il y a encore probablement, j'allais dire, quelques trous dans la raquette, mais beaucoup moins. La plupart de nos élèves et de nos familles ont l'équipement informatique, ce qui nous permet justement, s'il y avait un renforcement des mesures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien de pouvoir décliner beaucoup plus sereinement le plan de continuité pédagogique.
Le maître mot du gouvernement, c'est protéger en ce début d'année, protéger ceux qui sont isolés, protéger ceux qui n'ont pas accès à une éducation comme vous voudriez qu'elle le soit. Nathalie Elimas, c'est votre rôle. Et puis, protéger les victimes d'inceste, de crimes sexuels. On en parlait tout à l'heure avec un témoignage très fort d'un homme qui a été victime d'inceste lorsqu'il était enfant. Combat fondateur pour que la honte change de camp. Ça vous concerne aussi, ça concerne l'éducation directement, puisque le président Emmanuel Macron a demandé la création à l'école de 2 rendez-vous de dépistage et de prévention. L'un au primaire, l'autre au collège. Vous allez veiller activement, scrupuleusement à la mise en place de ces dispositifs avec la formation qui va avec.
Oui, je vais veiller évidemment avec Jean-Michel Blanquer activement à ce que ces rendez-vous médicaux aient bien lieu. Et nous allons d'ailleurs y travailler tout prochainement avec Adrien Taquet. Mais au-delà, ce que je veux vous dire, c'est que évidemment cette question, elle me bouleverse et elle me heurte. J'avais été saisie d'ailleurs de ce sujet quand j'étais arrivée à l'Assemblée nationale, notamment avec l'affaire de la petite Sarah, cette petite fille de 11 ans qui avait été violée, puis ça avait été requalifié par le tribunal de Pontoise. Et alors j'avais créé un groupe de travail et j'avais été très active. J'avais porté vraiment des propositions fortes à l'occasion de l'examen du texte de Marlène Schiappa, où il était question de la prescription. J'avais demandé à ce que soit rouvert le débat sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Et puis sur la question de l'âge qui fait encore débat aujourd'hui, je sais bien, avec cette proposition de loi émanant du Sénat, j'avais demandé à ce qu'il y ait la fixation de 2 seuil d'âge, 1 à 13 ans et 1 à 15 ans. À 13 ans, avec une présomption irréfragable, ça veut dire que la charge de la preuve est totalement sur l'agresseur et qu'elle ne peut pas être contestée, ce qui signifie plus spécifiquement et plus clairement que le consentement d'un enfant à l'acte sexuel ne pouvait plus jamais être questionné. Et puis une présomption simple à l'âge de 15 ans, puisque certains ados de 15 ans sont formés et donc il peut y avoir une erreur à un moment donné. Mais en tout cas, j'avais beaucoup travaillé sur ces sujets. Au-delà, j'avais demandé également la création d'un crime spécifique d'inceste, qui n'est aujourd'hui qu'une circonstance aggravante.
Donc
et donc, je suis contente
plus que plaider pour cette cause,
de voir que dès demain, des consultations démarrent avec Adrien Taquet et avec le garde des Sceaux pour que l'on puisse enfin avancer sur ce sujet. Et comme l'a dit très justement le président de la République, que la peur change de camp.
Nathalie Elimas, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, est très touchée aussi par cette question des crimes sexuels et de l'inceste en particulier. Merci de votre présence
Merci
ce soir et de tous ces dispositifs que vous avez mis en lumière. Merci, à tout de suite.